bizarre, fantasque, effrayant, philosophique ou malicieux,
tout simplement universel,
le conte,
la nouvelle ou la fable nous font des clins d'œil.
Ne boudons pas notre plaisir.
Installons-nous confortablement et écoutons.
Ciel, si ceci, ciel, si ceci,
qu'on goûte.
Une émission proposée par Jacqueline
sur Radio Bartas.
Monkey Palace. C'est l'idée que je me fais du paradis, du vert et du bleu qui étincellent sous le soleil, dans un écrin de végétation luxuriante, plusieurs piscines en forme de diamant depuis lesquelles on voit la mer. Un resort bordé de sable fin, pas blanc mais presque, et dominé par des reliefs boisés d'un vert profond, décoré principalement par la nature elle-même. Des oiseaux colorés, peu farouches, des fleurs prodigieuses, grandes comme des visages humains, des arbres gigantesques qui assurent la verticalité de l'ensemble. Et une impression de sécurité totale. Isolement et protection, avec en prime tout un tas de gens à votre service et des buffets à volonté qui proposent tout ce qu'on peut avoir envie de manger. Je surkiffe cette chambre, s'exclame Jacques. Mon jumeau saute sur son lit, aussitôt la porte refermée. C'est comme ça qu'il a choisi celui où il allait dormir quand on est arrivé ce matin, sans même me demander mon avis. Je m'en fiche. Du mien, je vois la mer. Et puis, je peux bien lui laisser la priorité pour le lit quand on voyage. Tout le reste du temps, Jacques subit son prénom du siècle dernier, qu'il doit au grand-père de notre mère, tandis que je porte un prénom que toutes les filles de la classe m'envient, grâce au premier film que nos parents ont vu ensemble. Je suis gagnante par le prénom. Lit d'hôtel en comparaison, ça ne pèse pas grand-chose. On loge dans une géniale villa ronde sur pilotis. Il est recommandé de bien fermer les fenêtres avant de sortir, au risque de laisser entrer l'un des nombreux singes qui peuplent les arbres du site. Pas besoin d'ouvrir les fenêtres, on fait tourner la clim à fond. Nous faisons quelques pas sur la plage, devant les piscines. Elle est impeccable, idéale pour les photos souvenirs, soigneusement entretenue par le personnel de l'hôtel, sans doute. Mais dès qu'on s'éloigne un peu, on découvre un sable moins net auquel se mêlent des bouts de bois flottés, des feuilles, des morceaux d'écorce, de palmiers, et aussi des déchets pas du tout naturels, de type bouteilles de plastique et barquettes de polystyrène. Nous regagnons la zone des piscines, entre-temps les parents sont eux aussi sortis. « Jacques, Willow » nouèle-t-il. Nous changeons de cap pour les retrouver. Ces crânes par là, les informe Jacques. Ni notre père ni notre mère ne se départent de leur bonne humeur. Chaque année, ils décident de la destination suivante dès le retour des vacances. Autant dire que ce voyage, ils l'attendent depuis un an. Ce ne sont pas quelques malheureux bouts de plastique qui affaibliront leur enthousiasme. Vous avez vu qu'ils offrent un cocktail gratuit au bar si on rapporte un sac de déchets ramassé sur la plage, nous dit notre père. Les sacs sont à récupérer au comptoir des serviettes. Je regarde Jacques. Je sais ce qu'il pense. C'est tout le temps comme ça. On est connectés depuis avant le jour de notre naissance. On ne va pas s'embêter à ramasser les déchets des autres pour un cocktail, me souffle-t-il, dès que notre père est hors de portée de voix. On reste sur la plage de devant et c'est bon, poursuit Jacques. Génial, regarde! Je me retourne pour voir ce qu'il me montre. Derrière moi, quelques dizaines de singes sont perchés sur les toits des bâtiments qui entourent les piscines. Et il s'agit de macaques crabiers, d'après le panneau d'information que j'ai vu dans le hall de l'hôtel. J'ai appris que ce singe, également appelé macaque à longue queue ou macaque d'Indonésie, est haut de 50 cm environ, a une queue plus longue que son corps et pèse de 4 à 6 kg. Je sais aussi qu'il vit en groupe et se nourrit de crabes, comme son nom l'indique. Mais pas seulement. C'est un omnivore qui ne laisse passer aucune opportunité. Fruits, fleurs, racines, écorces, oisillons, lézards, grenouilles, poissons. Il mange tout et n'importe quoi. Un peu comme nous ici. Maxi buffet à volonté. J'aperçois un singe qui se faufile entre les pieds des chaises longues. Il avance jusqu'au verre qu'un vacancier a abandonné pour aller se baigner. Du coca d'après la couleur. Une rondelle d'orange décore le verre. Je suis sûre que c'est ce qui a attiré son attention. Le singe fait un pas supplémentaire et saisit la tranche d'agrumes. Gagné. Un deuxième macaque que je n'avais pas vu descendre du toit le rejoint. Je secoue Jacques, occupé, à enchaîner les roulades dans le bassin. Regarde, si ça se trouve, ils vont se battre pour l'orange. Mais c'est le verre que le deuxième singe semble avoir repéré. Sans avertissement, il l'attrape, à deux mains, et le boit, exactement comme l'aurait fait un humain dans un bar. Puis il repart comme il est venu, suivi du premier singe qui porte le morceau de fruit. Festival de tartines, annonce mon frère. C'est bien de prendre des forces avant de partir en excursion, commente notre mère en louchant sur nos assiettes. Mais là, vous risquez de ne pas pouvoir décoller. Heureusement qu'on ne prend pas l'avion, rigole Jacques. En effet, on ne prend pas l'avion. Le taxi qui est venu nous chercher au Monkey Palace nous conduit à un petit embarcadère au cœur de la mangrove où patientent une dizaine de personnes. Nous grimpons à bord d'une grande barque coiffée d'un toit. Au programme ce matin, pêche au crabe de palétuvier. Notre guide pousse l'embarcation au moyen d'une longue tige de bambou. Nous progressons au milieu de la végétation. Les seuls bruits humains sont ceux que nous faisons. C'est vraiment reposant. La mangrove est vraiment un environnement à part, pas vrai ? S'informe mon père. En effet, précieuse pour l'homme comme pour l'animal. Elle constitue un rempart efficace aux conséquences du changement climatique. Et c'est aussi la nurserie de poissons, de crevettes et de crabes, indique le guide. Mais la mangrove est en danger, continue-t-il. On la dégrade ici comme ailleurs. Son étendue se réduit chaque année. On installe des bassins d'aquaculture non durables. On coupe les arbres. Tout l'écosystème en souffre. Nous remontons à bord de la barque pour regagner notre point de départ. Tandis qu'Henri pousse l'embarcation avec son bambou, ma mère se renseigne sur les palmeraies que nous avons vues en venant. « Ce sont des palmiers à huile », lui apprend notre guide. « Leur culture est 4 à 9 fois plus rentable que celle du soja, du colza, du tournesol ou même de l'EVA avec lequel on fait le caoutchouc. Alors ils en plantent partout. L'huile de palme est la moins chère de toutes. » La demande est si grande, s'intéresse notre mère. Oui, et elle ne cesse d'augmenter. On utilise cette huile dans tout un tas d'aliments, des nouilles instantanées, au Nutella, en passant par les crèmes glacées, mais aussi dans la lessive, le shampoing, le rouge à lèvres. C'est comme pour la mangrove. Ça doit avoir de sacrées incidences sur la faune et la flore, intervient mon père. En effet, confirme Henri, plus de la moitié des forêts de l'île ont été supprimées, en conséquence de quoi de nombreuses espèces sont menacées. Les orang-outans, les grands singes, Même les rhinocéros ne sont plus très nombreux ici. Tout ça pour satisfaire la demande en bois tropical et en huile de palme. Je pense à notre terrasse en France, entièrement en teck. C'est pour ça que je reconnais l'essence parmi les autres. À la boutique du club, notre père a repéré une grosse tête de singe sculptée, parfaitement assortie, qu'il a prévu de rapporter. Et personne ne fait rien, s'enquiert ma mère. Il y a eu des inspections. Le gouvernement et des ONG ont même instauré des règles de bonne conduite, mais ça n'a pas suffi. Les palmeraies se trouvent le plus souvent dans des zones isolées, au milieu de la jungle, et tout un système mafieux s'est mis en place autour d'elles. Les lois de protection ne servent à rien, le commerce est plus fort, résume Henri. Peut-être que demain, je pourrai me passer de Nutella au petit déjeuner. En consommer, c'est entretenir la spirale et donc continuer à priver progressivement tous ces animaux d'habitat. Voilà ce que je me dis en marchant vers la villa, après que le taxi nous a déposés à l'entrée du club. J'ouvre la porte et je m'arrête net sur le seuil. Nos vêtements et nos affaires jonchent le sol. La fenêtre est entrebâillée et j'ai le temps de voir un macaque s'enfuir. « Jacques, lançais-je à mon frère, encore dans l'escalier, t'as oublié de fermer la fenêtre ce matin, les singes ont tout saccagé. » J'ai rien oublié du tout, j'avais pas ouvert la fenêtre, réplique mon frère en accourant. Quel foutoir! Nous remettons nos affaires en place, lui, agacé que je l'ai accusé, moi, agacé qu'il ne soit pas capable d'avouer sa responsabilité. Je me demande si la pluie pendant les vacances n'est pas pire que la pluie le reste du temps. Mettez vos caouets sur vos têtes pour aller jusqu'au restaurant, conseille notre père, avant de disparaître sur la passerelle ruisselante. Est-ce que c'est la saison des pluies ? Demandai-je lorsque nous nous retrouvons tous les quatre à table. Non, tu penses bien qu'on aurait choisi une autre destination si ça avait été le cas. La saison des pluies débute en général au mois de novembre et elle dure jusqu'en mars. Dans l'après-midi, l'orage s'éloigne, il pleut toujours mais moins dur. Les parents ont choisi de se réfugier au spa. Cette fois, la pluie est supportable. « Bamba !» hurle Jacques en se jetant dans l'eau. Je l'imite. « Quel kiff ! La piscine est chaude comme un bain. Les gouttes qui martèlent la surface brouillent la transparence. On se croirait dans l'océan. » La peau de mes doigts est toute fripée et je commence à avoir froid. Nous hâtons le pas et grimpons en vitesse les marches de l'escalier qui mènent à notre villa. Je pousse la porte et je me fige. « Quoi ?» lance Jacques dans mon dos. « Vas-y, entre !» Je ne parviens pas à lui répondre. Notre vaste chambre est envahie par les singes, des macaques crabiers. Il y en a partout. « Willow, Jacques !» c'est la voix de notre mère. Elle arrive par la passerelle. « Il y a des singes plein notre chambre !» s'exclame-t-elle avant que nous ayons pu prononcer le moindre mot. Je n'ose pas regarder de nouveau. L'idée que les primates s'amusent avec mes vêtements ou mon téléphone me glace le sang. Et puis je n'ai pas envie que l'un d'entre eux me saute sur la tête. Tous les trois, en regardant mon père, comme si il allait proposer une solution miracle. « Bon, lâche-t-il finalement, on va à la réception. » Nous approchons de la réception. De nombreux vacanciers convergent vers le bâtiment. Le club est en ébullition. Je regarde autour de moi. La panique et la confusion règnent. Un membre de l'équipe, vêtu de son costume beige, se hisse sur le comptoir. Une fois debout, il réclame l'attention de tous. « Du calme, du calme !» commence-t-il en souriant maladroitement. « Mesdames et messieurs, comme vous avez pu le constater, nous avons des visiteurs très insistants en cette fin d'après-midi. Nous sommes en train de résoudre le problème. Nous venons d'ouvrir le restaurant avec un peu d'avance et nous vous proposons de vous y rendre le temps que nous réglions la situation. » Les ampoules s'allument. C'est le signal du coup d'envoi. Hommes et femmes se précipitent. D'un regard, notre mère nous indique de laisser passer les plus impatients. Mais bientôt, ceux-ci font marche arrière. Alors que je me dresse sur la pointe des pieds pour tenter de comprendre pourquoi des cris retentissent, des cris de singes. Visiblement, les macaques ont aussi décidé de se restaurer. Nous laissons notre père s'approcher seul du comptoir. « Ce sont des incapables », déclare-t-il en revenant vers nous 3 minutes plus tard. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour l'instant car les singes sont plus nombreux que les membres du personnel. Heureusement que j'ai mon portefeuille dans ma banane, j'ai fait appeler un taxi. On va aller dîner en ville et puis on trouvera un hôtel pour la nuit. Le taxi s'arrête devant le centre commercial. En théorie, il y a l'embarras du choix, mais là, nous optons pour le premier restaurant dans lequel les singes ont l'air moins nombreux. Je vais commander avec mon père et nous revenons en portant chacun un plateau chargé de sandwichs au poulet et de boissons gazeuses. Nous mangeons en vitesse et en silence. Les singes, qui ont en partie déserté la galerie commerciale, sont partout à l'écran. Un spécialiste du comportement animal avance une hypothèse. Les singes se sont retrouvés privés d'habitat naturel et ils ont donc décidé de récupérer celui des hommes. « Il faut qu'on parte d'ici, » dis-je affolé. « Ça ne peut pas s'arranger. Les singes ont mis le bazar dans toute la région. » De toute façon, les vacances sont foutues, admet mon père. Tant pis pour ce qu'on a laissé dans la chambre. On rentre. Pas d'objection ? Allez, on file à l'aéroport. Notre mère, elle, un taxi. Une voiture noire ne tarde pas à s'arrêter. Nous y sautons et demandons à être conduits sans délai à l'aéroport. Arrêtez-vous ici, ça ira bien, l'osse notre père au chauffeur. On n'a rien enregistré, on file direct à l'embarquement, annonce-t-il, après avoir pointé le prochain vol pour la France. Là, un comptoir libre, s'exclame Jacques. Le préposé, les yeux baissés sur des documents, n'offre à notre vue que le dessus de sa casquette aux couleurs de la compagnie aérienne. Il nous faut 4 billets pour Paris, Charles de Gaulle. Business ou éco, ce que vous avez, peu importe, même si les sièges sont pas côte à côte, on prend. Sans rien répondre, le préposé désigne un autocollant apposé sur le dessus du comptoir. En raison des circonstances, les vols en partance n'acceptent plus aucun être humain. J'hallucine. C'est une blague ou quoi ? Le préposé relève alors la tête et me regarde droit dans les yeux. Ce n'est pas un homme, c'est un singe. Je me sens défaillir, c'est l'idée que je me fais de l'enfer. Extrait de Monkey Palace, La revanche des singes, de Sophie Adriansen, recueil de nouvelles.
Vous venez d'écouter Compte-Goutte sur Radio Bartas 107 FM.